Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du samedi 10 janvier 2026. On se retrouve avec un Bitcoin au-dessus de 90 400 pour être précis, un Ether au-dessus des 3000 mais sous les 3100, en léger recul sur les dernières 24 heures. C'est également le cas de XRP. Et malgré tout, sur ce top 10, on peut observer qu'on reste en positif sur la semaine en règle générale. On a moins 14 pour Zcash, moins 25 sur la semaine. Donc lui, voilà, on a des prises de profit assez massives et je pense que le désengagement va être à la hauteur du sort qu'il avait connu à la hausse précédemment. Moins 4% pour PP au niveau des mêmes coins, plus 16% pour Paul, anciennement Matic, 50% sur la semaine, 40e place, autour de 17 centimes et 1,78 milliards de capitalisation. Moins 5 pour Sky, anciennement Maker, plus 6 pour Atom Cosmos, qui malgré tout reprend petit à petit des places, puisqu'il était sorti à un moment du top 60 et il recapitalise 1,26 milliards. En positif sur la semaine de 18%, on a 48% également en hebdo pour Render et on clôture le top 60 avec Arbitrum, Algorand, Midnight et Official Trump autour de 1 à 1,20 milliards de capitalisation. Au niveau des infos cette semaine, il ne s'est pas passé grand chose et donc je voulais m'attarder quelques instants sur ce poste de Bob Lucas qui est très intéressant puisqu'il a essayé au travers de bon nombre d'algorithmes, d'intelligence artificielle, etc. en mettant d'origine des data qu'il a lui, il a un scénario principal finalement, et il a demandé à l'IA de calculer un pourcentage de chance en fonction de ce qui s'est passé, de ce qui est en cours, de ce qui pourrait se passer demain sur ce cycle de 4 ans au niveau de Bitcoin, s'il existe toujours bien entendu, puisque déjà là pour le cycle en cours, on n'a pas eu la troisième année consécutive verte, donc c'est la première fois que ça le fait depuis une bonne dizaine d'années, peut-être 12 ans. Et donc on en vient à cette conclusion en affichant ce petit graphique à l'écran ici, que le cycle qui serait toujours en cours et qui donc ne ferait plus allusion à ce fameux cycle de 4 ans avec une phase haussière qui dure en règle générale à peu près 2 ans, une phase de distribution entre 6 mois et 1 an avec le bear market intégré et ensuite on refait une phase d'aplat, plus de consolidation et c'est au bout d'un an supplémentaire quand il y a le halving qui passe que par la suite le marché se reprend. Et donc aujourd'hui, le fait qu'on soit comme ça dans une continuation haussière sans bear market intermédiaire serait autour de 15%. 30% pour une distribution étendue, donc c'est ce qu'on vit depuis pas mal de temps. Et quand on regarde le graphique de Bitcoin, on voit que autour de 80-90 000, quand bien même ça bataille, on se demande si effectivement on va pas finir par aller plus bas. Finalement, la distribution étendue ferait état en bout de course, de la continuité de bear market et le top donc qui serait, comme il le marque ici, déjà passé et donc on est en phase de distribution plus bear market, 55%, ce qui fait que si on prend distribution étendue plus le top qui serait déjà fait, acté, on est à 85% contre 15% pour le cycle qui continuerait de façon haussière au cours de 2026. Donc je trouve ça plutôt intéressant de notre côté aujourd'hui. Pourquoi ? Puisque ça nous permet aussi de jauger de l'appétit au risque que l'on peut déployer en 2026. On va le voir dans quelques instants au niveau de l'analyse technique que les indices sont en train tous de nous faire des nouveaux points hauts, ce qui est très loin d'être le cas malheureusement de Bitcoin pour l'instant. Alors est-ce qu'il a corrigé en amont des marchés traditionnels et est-ce que les marchés traditionnels vont finir eux aussi par purger ou est-ce que Bitcoin redressera la barre et viendra coller donc aux performances que nous offrent aujourd'hui les métaux précieux, le S&P 500, le Nasdaq, même le CAC 40 nous a fait une très très belle séance vendredi dernier pour la France. C'est tout ça qu'il va falloir de notre côté en 2026 bien mettre en balance pour jauger au mieux de ce qu'on pense que cette année pourrait nous donner ou non. Et donc ça me permet de faire la transition sur une analyse technique où aujourd'hui on a un crypto total à 3060 milliards et on voit que à 2-3 reprises dès lors qu'on s'approche des 3200 ça bloque. C'est tout ce bloc en fait de fin de 2024, début 2025, donc on a la clôture annuelle de 2024, l'open annuel de 2025 et toute cette zone autour de 3200 pour l'instant est bloquante avec des oscillateurs qui malgré tout ont perdu en vélocité vendeuse, mais c'est pas pour autant qu'on a réussi à rallier les 3003 à 3004 qui auraient correspondu du côté du Bitcoin à peu ou prou autour de 100 000 $. La stablecoin dominance donc USDC, USDT contre le crypto total pour l'instant toujours bloqué bloqué autour de 0,09 sur ce ratio, donc à sa moyenne mobile 200. Pas plus à exploiter si ce n'est que on n'a pas l'impression que ça veuille retracer immédiatement. La Bitcoin dominance, pareil, ça fait plus ou moins un trimestre qu'on gravite entre 58 et 60%. Donc le BTC qui est bien stable sur ses appuis, en tout cas pour l'instant. 90 438, là aussi, ça fait quasiment deux mois qu'on est dans un mouchoir de poche entre 85 et 94-95. Donc bien entendu que le prochain mouvement qui s'en suivra va être un mouvement impulsif. Est-ce qu'on arrive à rallier les fameux 100, 102, 103 ou est-ce qu'on part à la cave et dans un premier temps, ça sera un stop autour de 80 pour les puristes, ensuite 75, 76, on a un 0,5 de Fibo à 70 et aujourd'hui la moyenne mobile 200 long terme est parfaitement alignée au 0,618 qui est le Fibo Golden quelque part, pour ceux qui font un petit peu d'analyse technique, à 57 700 précisément. Donc clairement, si on avait un bear market où on nous donne autour de 50 000 à plus ou moins 10 000, voilà, ça sera quelque chose qui contentera énormément de monde, je suppose. La seconde crypto-monnaie du marché, statu quo, pareil, ça fait deux mois qu'on fait le yo-yo entre 2008 et 3003. Donc pour le moment, on voit quand même qu'il y a autant d'entités comme les Bitmain qui en accumulent des quantités stratosphériques que ceux qui distribuent, et notamment du côté des ETF. Donc pour l'instant, on n'a pas de son de cloche véritablement directionnel, et c'est ce que font finalement les institutionnels. Ils se couvrent, ils parient à la hausse, ils parient à la baisse, et finalement, ils s'y retrouvent comme ça sur ce qu'on appelle des stratégies delta neutre. Au niveau des indices, on va attaquer donc par les métaux précieux et les États-Unis avec le silver, donc l'argent qui est venu nous chercher les 83-84 dollars l'once quasiment. Donc c'était la semaine dernière et pour l'instant, pareil, petite contraction et consolidation. Le RSI est très très haut en hebdo. D'énormes volumes sont rentrés à compter de l'été 2025, ce qui laissait pressentir aussi pour ceux qui font pareil toujours un petit peu de recherche d'analyse technique que quand on était autour de 30-40 dollars ici, voilà, on avait un mouvement qui était en train de se préparer. Ça suit également du côté du palladium, aluminium, le cuivre, le CAC 40 comme on le disait à l'instant qui nous a fait 1,44% vendredi et qui vient chercher un nouvel ATH à 8362 points. C'est pareil pour le Nasdaq, ce qui lui n'est pas encore sur un ATH mais s'y prépare, 25766. On a un futur qui lui est à 25938. D'ailleurs, le WPEA et le CW8 d'Amundi en profitent très largement, côté en euros. Pourquoi ? Puisqu'on a le double bénéfice d'un DXY qui est à 99 pour le dollar américain. Donc, finalement, le pairing reprend un petit peu de ses lettres de noblesse et un WPEA qui est aujourd'hui à 6,26 euros et le W8 qui est à 622 euros. Donc là aussi, on rentre en phase haussière. Je ne sais pas combien de temps ça peut durer ainsi puisque le S&P 500 voilà, vient de nous faire un nouveau point haut juste en dessous des 7000 points. Est-ce que 2026 va pouvoir véritablement s'extraire par le haut et aller chercher beaucoup mieux que ce qu'on a fait jusqu'à présent ? N'oublions pas que statistiquement parlant, l'année des midterms du président des États-Unis sur une centaine d'années est historiquement la moins bonne en termes de performance pure et brute pour le S&P 500. Donc c'est quelque chose aussi à observer finalement, quand bien même vous n'êtes pas des pros des statistiques ou qu'on voit que sur ces 2-3 dernières années, c'est très difficile de s'y fier quelque part. On a le platine également qui est léger dans le vert, 2248. Le DAX allemand à 25261, pareil, qui nous fait un nouveau point haut et qui, depuis le point bas de avril 2025, avait quand même récupéré, on le regarde pas trop, mais 36%. Donc on est très largement dans les clous maintenant pour le CAC, pour le DAX et toute la zone européenne de ce qui s'était passé pour les États-Unis au niveau du S&P 500. On n'a pas à rougir, en tout cas, en termes de performance, là aussi. Du côté des actions liées à la crypto, statu quo, je me fie souvent à Coinbase, qui est la principale. Il y a une banque américaine, je ne sais plus laquelle c'était, j'avais vu passer la news cette semaine, qui a conseillé à ses clients de commencer à se repositionner sur Coinbase. On est sur le 0,5 de Fibo, autour de 240 dollars. Le 0,618 nous amènerait à 190. Moyenne mobile 200 à 168. Voilà, on a un petit pivot long terme également, 145. Et la zone de bear market, si un jour Bitcoin vient à 50-60 000, se trouverait, je suppose, plutôt autour de 120 dollars pour Coinbase. Donc vous avez toutes les zones clés. Et finalement, ça ressemble plus ou moins à ce qu'on pourrait observer du côté des altcoins, du côté de Bitcoin. C'est-à-dire, si on prend le risque de commencer à payer aujourd'hui à 240 $140, eh bien au maximum entre guillemets, puisque on peut jamais le savoir avec certitude, mais il faut se préparer à un moins 50% potentiel par rapport au prix sur lequel nous travaillons actuellement. D'ailleurs, toujours pareil, le marasme pour MicroStrategy, MSTR, donc voilà, c'est compliqué d'un côté de le payer dans l'immédiat tout en se disant, eh bien, on ne prend pas un énorme risque, et d'un autre côté, c'est un actif qui a perdu, hein, quand on prend de la mèche à aujourd'hui, environ moins 70%, moins 71%, donc on a la moyenne mobile 200 juste en dessous. Le problème, c'est si effectivement Bitcoin venait à perdre quelques milliers, voire dizaines de milliers de dollars à la baisse, jusqu'où pourrait dérouler MicroStrategy ? Peut-être jusqu'ici, autour de $100 tout rond, ça ferait réagir un petit peu le marché. Voilà, c'est assez difficile pour un actif qui, malgré tout, sur ce cycle, était passé au niveau de son point bas de décembre 2022 de $13 à un point haut, comme vous le savez, de $541. Donc, il s'est apprécié de 4000%. Donc, forcément, au niveau des targets de bear market, ça peut descendre très bas, très vite. Et d'autant plus, finalement, l'épée de Damoclès de MicroStrategy, stratégie nouvellement, ça peut être effectivement de devoir vendre des bitcoins ou de devoir se couvrir différemment si vraiment les temps étaient un peu plus durs. Donc, jusqu'ici, ça n'est pas arrivé. Mais là, avec tous les BTC qu'ils possèdent aujourd'hui, leur véritable baptême du feu, il ne s'est pas passé au bear market précédent. Il va se passer sur celui-ci de 2025 à 2026. Si tant est que l'on soit en bear market, puisque pour l'instant, là aussi, on n'a pas eu de véritable confirmation. Et c'est toute la problématique d'avoir un peu le cul entre deux chaises. Personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je préférerais qu'on baisse une bonne fois pour toutes sur ce premier trimestre 2026 plutôt que de faire un truc qui durera en longueur. On monte un peu au niveau du marché américain, on redescend derrière l'été, les mi-termes à l'automne. Voilà, on a besoin d'une bonne purge. Est-ce que ça arrivera avant le printemps 2026? Est-ce que ça arrivera plutôt à automne, fin d'année 2026? Dans tous les cas, vous connaissez mes deux scénarios qui sont un peu antagonistes, certes, mais qui reviennent au même chemin à la fin, c'est-à-dire d'avoir une purge au cours de 2026. Et pour moi, il y a les deux grands blocs au final de comment une année a tendance à se dérouler, avec peut-être soit sur ce début 2026, soit autour de l'automne, et avec les mi-termes, si ça se passait jusqu'à cet automne, qui serait finalement un peu le point bas et l'apogée de ce bear, si tant est que ça pouvait se dérouler ainsi, et ce qui nous donnerait une année 2027 où on viendrait récupérer comme ça petit à petit, exactement un peu comme ce qu'on l'a connu, hein, sur le cycle crypto de 4 ans jusqu'ici. ASML qui nous pousse 6,66, le diable se cache dans les détails, donc qui vient chercher un nouvel ATH à 1273,88. Donc là aussi, au printemps, on était à 590,85. Donc on est désormais sur plus d'un fois 2 pour ASML. On a de belles performances également pour Novo, qui se récupère un petit peu à court terme, Novo Nordisk. Donc après un point bas et une belle déviation sous support autour de $43-44, on est de retour à 58-59. Belle zone de polarité, hein, sous les $60, moyenne mobile 50 qui arrive par le nord. Donc peut-être, je dis bien peut-être, on pourrait commencer à dessiner une épaule tête-épaule inversée si ça revenait travailler ici un petit peu plus bas, entre 50 et 60. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que voilà, on a quelque chose qui s'est construit très longuement dans une trend baissière ici, qu'on est peut-être enfin en train de casser. Donc on va voir comment ça pourrait se matérialiser pour Novo, mais c'est un peu plus encourageant avec du volume qui rentre récemment, mais pas que, puisque depuis l'été, là aussi, ça commence à se préparer un petit peu plus, et sur un actif qui, pour une action donc qui est cotée un peu partout au travers de la planète, avait reculé de moins 71%. Donc pour du long terme, ça pourrait être intéressant, mais comme d'habitude, je vous invite à vous renseigner sur le domaine et à vous plonger dans les rapports qui vous feront investir en votre âme et conscience et sur des convictions, et pas juste sur un volet spéculatif. Au rang des corrections marquées côté US, on a Netflix qui continue de dérouler, donc laissons-le se poser. On est désormais aux 0,38,2 de Fibo à $88-90. On pourrait baisser un petit peu plus, on a un petit stop ici intermédiaire à 82, 0,5 à 75, le support avec la borne haute de novembre 2021 ici autour de $70. Moyenne mobile 200 qui est alignée au 0,618 autour de $62 et le 0,786, mais là vraiment il faudrait que ça se gâte sérieusement autour de 41-42, sachant que en 2022 on avait eu un recul sur Netflix qui était assez monstre, on avait reculé de 76-77%. Aujourd'hui, on est à peine, entre guillemets, à un moins 33%. Donc voilà, comme d'habitude, c'est exactement le discours que j'avais eu à l'époque et je pense que c'est encore peut-être un petit peu trop tôt. Netflix restera ce qu'elle est. C'est peut-être l'acquisition aussi de Warner qui fait peur aux investisseurs à court terme de dilapider du cash et peut-être que les revenus sont en train de se poser. En tout cas, on a un RSI qui est en train d'arriver très bas, le MACD qui a creusé très bas, pas aussi bas qu'en 2022, mais voilà, si on nous donnait quelque chose à terme entre 60 et 70 dollars pour Netflix, ça peut être tout à fait intéressant pour rejouer plus tard le rebond et un futur bull run. Enfin voilà, on est en phase corrective, donc il faut savoir observer quelque part. Pour ceux qui font du DCA, y compris sur les actions, bah peut-être que ça peut devenir intéressant de commencer à DCA ici, mais tout en ayant bien en tête que bien un simple retour à la moyenne mobile 200, si on paye à 90 dollars, c'est de nouveau un moins de 30% additionnel. Ceci étant dit, pour nous qui sommes habitués dans la crypto à avoir des mouvements de moins 60, moins 70, moins 90, quand on nous dit de DCA sur une fourchette potentielle de moins 30, je suppose qu'on n'est pas tellement en panique par rapport à ce qu'on peut observer justement du côté des altcoins. On a la BNP également qui nous pousse plus 6% et qui nous fait pas loin d'un nouvel ATH, 87 euros. L'ATH se trouve à 92. Donc les bancaires, à un moment, nous annonçaient sur Twitter, il y a quelques trimestres, que ça y est, la SG, BNP et tout le tutti quanti allaient faire faillite. Eh bien, toujours pas, apparemment. On en a d'autres, hein, bien entendu, comme Hermès, Amundi. On a Total qui ont bien poussé vendredi dernier. Amundi, d'ailleurs, qui fait partie avec l'Euronext et d'autres que j'ai pas passé tout à l'heure, notamment du côté des États-Unis. On a l'ICE, on a le Nasdaq, c'est les fameux vendeurs de pioches et de pelles. Donc aujourd'hui, Amundi, on voit que c'est pas la volatilité énorme qui le caractérise, bien que ici, entre 2021 et 2022, il ait reculé de 51%, c'est assez énorme. Mais voilà, c'est une action qui se tient plutôt pas mal et qui, au long terme, continuera d'engranger des parts de marché, proposera toujours plus de contrats, générera toujours plus de frais. Donc tout ce qu'il faut jauger là-dedans, c'est un peu comme Visa et Mastercard aussi pour les États-Unis finalement, c'est des flux qu'ils capitalisent et de voir si on a de la croissance année après année, ce qui jusqu'ici est le cas, hein, pour des Amundi, des Euronext, tant que la bourse fonctionne, bien entendu, que tous ces services bénéficieront de ce type de croissance. Et allez, une fois n'est pas coutume, on clôture avec la partie asiatique et surtout le Japon qui vient de faire un nouvel ATH sur le Nikkei. Là aussi, on est très très haut perché, donc c'est ce qui me met un petit peu le doute, hein, comme d'habitude. Quand je vois un S&P 500 en ATH, un CAC 40 en ATH, un Nikkei en ATH, tout va bien dans le meilleur des mondes, les métaux précieux sont achetés comme jamais par les banques centrales. Voilà, je dis souvent cette phrase parce que c'est un petit peu un truc qui me semble cocasse de qui se ment finalement là sur le marché actuellement. Et finalement, il y en a peut-être un qui se ment un peu moins que les autres et qui est avant-coureur de ce qui pourrait se passer en 2026 sur l'ensemble des marchés, c'est le Bitcoin qui nous aura fait une descente donc un peu avant-gardiste, j'ai envie de dire, et qui, si les marchés viennent à se casser la gueule en 2026 d'un point de vue général ce coup-ci, pourrait nous offrir dans une consolidation très simple en ABC la seconde jambe baissière. Donc là aussi, je ne suis pas un héliotiste ou un professionnel du comptage de vagues, mais les corrections en ABC, comme on les a souvent vues comme ça dans les grands de lignes quelque part sur les différents bear markets précédents, ont tendance à plutôt pas mal coller avec ce que nous a offert le marché crypto. Donc aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, 2026, ça peut être terre d'opportunités, peut-être qu'elles sont déjà là ou peut-être que les meilleures opportunités ne se présenteront que tardivement au cours de cette année et potentiellement à l'automne. C'est une année où il va falloir continuer à jouer défensif relativement de notre côté, tout en vraiment étant proactif et flexible au moment où il faudra potentiellement continuer de tirer sur cette gâchette. Et c'est là où il faut avoir toujours cette poche de cash de 10, 20, 30% qui nous permettra justement de profiter au mieux de ces opportunités que 2026 nous offrira. Et à n'en pas douter, je pense que ça sera une année de nouveau relativement agitée. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve d'ici lundi. Continuez d'être prudents et je vous souhaite un très bon week-end. Ciao, ciao.